Radio Prague, les informations. Bonjour. Selon le rapport annuel de Transparence internationale, la situation concernant la corruption ne s'améliore pas en République tchèque. Un dissident cubain expulsé de son pays a été accueilli à Prague ce mardi. Et puis enfin, Madeleine Albright a présenté à Prague son dernier ouvrage. La République tchèque figure en 53e position du dernier rapport établi par l'ONG Transparence internationale sur la perception de la corruption, dont les résultats ont été publiés ce mardi. Il s'agit d'un recul d'une place par rapport à 2009, sur une échelle allant de 0 pour le plus haut degré de corruption perçu à 10 pour le plus faible degré. La République tchèque présente un indice de 4,6. Selon Transparence internationale, les pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont les pays les moins corrompus dans le monde. La République tchèque figure, elle, parmi les mauvais élèves de l'Union européenne. Selon le directeur de Transparence internationale en République tchèque, ce résultat est la conséquence notamment de l'absence de mesures anticorruption prises par le gouvernement ces deux dernières années. Le gouvernement, justement, consent à conserver l'année prochaine les grilles de salaire actuellement en vigueur. Cependant, il entend toujours réduire de 10% le volume de la masse salariale dans la fonction publique. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le Premier ministre Petra Nečas à l'issue de la rencontre avec les représentants des syndicats. Par ailleurs, le gouvernement a proposé que le montant des moyens consacrés au salaire reste inchangé pour les années 2012 à 2014. Les syndicats ont fait savoir qu'ils feraient connaître leur position vendredi. Un dissident cubain accompagné de sa famille est arrivé à Prague ce mardi. Il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur et plusieurs diplomates. Selon le ministère de l'Intérieur, la République tchèque va accorder l'asile politique à toute la famille, permettant ainsi à celle-ci de vivre dans le pays. La République tchèque a fait savoir à l'ONU cette année qu'elle était prête à accueillir une dizaine de personnes expulsées de Cuba. Après l'Espagne, la République tchèque est le deuxième pays de l'Union européenne à permettre aux Cubains expulsés de trouver une seconde patrie. Le président de la République, Václav Klaus, a qualifié de surévaluer les conséquences que pourrait avoir sur les réformes de fond préparées par le gouvernement les changements dans la composition du Sénat. Le chef de l'État a fait cette analyse dans un entretien publié par le quotidien Pravo ce mardi, soit 3 jours après la fin du deuxième tour des élections sénatoriales partielles. À l'issue de celle-ci, le Parti social-démocrate, principale force de l'opposition, dispose de la majorité à la Chambre haute du Parlement. L'ancienne secrétaire d'État américaine d'origine tchèque, Madeleine Albright, a présenté ce mardi dans une librairie du centre de Prague son dernier livre intitulé « Le langage secret des broches ». Dans cet ouvrage, sous-titré « Les histoires de mon coffret à bijoux », Madeleine Albright raconte comment ces broches sont devenues instruments de sa stratégie diplomatique. Dans sa collection de plus de 200 broches figurent des bijoux de pacotille, mais aussi des joyaux de grande valeur. Madeleine Albright, qui est née en Tchécoslovaquie, a été secrétaire d'État entre 1997 et 2001 pendant le mandat du président Bill Clinton. On termine avec un mot de météo. Malgré quelques nuages, notamment dans la moitié nord-ouest du pays, c'est un temps dans l'ensemble ensoleillé qui règne sur la majeure partie du territoire ce mercredi. Conforme aux normales saisonnières, les températures sont plutôt fraîches et varient entre 6 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Tout de suite, retrouvez Vastav Lecter. Faits et événements en République tchèque.
La police tchèque perd ses membres expérimentés. Le grand maître du cinéma surréaliste tchèque Jan Švankmajer fait l'objet d'une grande rétrospective au Forum des images à Paris. Le prix national de littérature a été décerné à l'écrivain Antonín Bajaja. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Les réductions budgétaires qui sont envisagées ou mises en place par la coalition gouvernementale dans pratiquement tous les domaines de la vie publique en République tchèque touchent aussi la police tchèque et les perspectives salariales qui y sont liées. Raison pour laquelle celle-ci risque de perdre un grand nombre de ses membres. Alena Gebertova.
Le départ en masse des membres de la police est un phénomène qui a commencé il y a environ 10 ans, sans jamais s'arrêter depuis. Il paraît cependant que jamais auparavant il n'a été aussi marquant que durant ces derniers mois. plus de 400 policiers au cours du premier semestre de cette année, près de 2000 depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, ont quitté les rangs de la police. Ce qui est plus alarmant encore que ces chiffres, c'est que la police perd souvent des policiers expérimentés, ceux qui y ont travaillé pendant 20 ans ou plus et dont l'expérience est irremplaçable. Selon les dirigeants responsables de la police, cet état de choses ne devrait pas porter préjudice à la capacité d'action de la police ou à la sécurité dans les rues des grandes villes. Milan Štěpánek, chef des syndicats de la police, est loin de partager cet avis.
Il va de soi que le départ d'un si grand nombre de membres de la police rendra son travail plus difficile et se répercutera sur sa qualité.
Dans le passé, le départ des forces de l'ordre se voyait dans la plupart des cas compensé par le recrutement de nouveaux membres. À l'heure actuelle, cet équilibre s'annonce moins évident et on parle d'un véritable exode. Après avoir quitté la police, ses ex-membres travaillent d'habitude pour les agences de sécurité ou pour un autre secteur privé. Le cas échéant, on peut les voir aussi offrir leurs services aux crimes organisés, car la législation nationale n'interdit pas explicitement à ces personnes de passer de l'autre côté de la barrière. La presse a retenu par exemple le cas d'un ancien officier d'élite, auparavant impliqué dans l'enquête sur l'assassinat de František Mrázek, symbole des pratiques mafieuses des années 90, et qui travaille aujourd'hui pour les sociétés de son ex-comparse, Tomáš Pitr, poursuivi en justice. Le manque d'effectifs est un défaut dont la police tchèque souffre de manière chronique. Ses dirigeants espèrent tout de même une prochaine stabilisation de la situation. La crise économique et la situation difficile qui existe en ce moment sur le marché du travail pourraient y contribuer.
Le grand maître du cinéma surréaliste tchèque Jan Švankmajer fait l'objet d'une grande rétrospective au Forum des images à Paris, alors que sort le 4 novembre en République tchèque son tout dernier film, Survivre à sa vie. Isabelle Vanini est la programmatrice de l'événement qui se déroule du 22 au 31 octobre. Elle a expliqué à Anna Kubista l'origine de cette intégrale Švankmajer.
Alors le Forum des images a un rendez-vous cinéma d'animation depuis 10 ans, donc on donne une carte blanche à un cinéaste d'animation une fois par mois, et depuis 10 ans on essaye d'inviter Švankmajer, qui est pour nous tous ici un des plus grands cinéastes d'animation et cinéma tout court. Et du coup on a décidé de se lancer dans une intégrale et non pas juste une soirée carte blanche. On s'est dit que c'était un cinéaste tellement immense qu'il fallait y aller carrément, quoi.
Alors c'est intéressant, justement, vous dites c'est un cinéaste tellement immense, mais on a l'impression que parfois il est un peu oublié. Alors il y a des raisons historiques aussi à ça, hein, puisqu'il a vécu derrière le rideau de fer, mais je sais qu'il a influencé, en tout cas il a inspiré de nombreux cinéastes internationaux, je pense à Tim Burton par exemple, ou même Terry Gilliam. Est-ce qu'il commence à être un peu redécouvert, en tout cas du grand public à l'heure actuelle ?
Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça au jour d'aujourd'hui. J'espère qu'après l'intégrale en plein cœur de Paris, on pourra le dire un petit peu plus, puisque on arrive chez nous au Forum des images à lier plusieurs publics et à ne pas attirer que le public d'animation qui va le connaître forcément, mais à un plus large public. Parce qu'on se rend compte en parlant aux gens que beaucoup de cinéphiles, par exemple, ne connaissent pas Švankmajer. Il est surtout connu dans le milieu du cinéma d'animation et encore. Donc il y a, je pense, tout un travail à faire encore. Il est plus connu apparemment aux États-Unis qu'en France, par exemple.
Švankmajer se revendique quasiment de manière militante comme un surréaliste. Ouais. On croit souvent justement que le surréalisme est mort, et finalement il est la preuve que le surréalisme est bien vivant. Comment est-ce que vous voyez justement ce monde surréaliste de Švankmajer ? Quelle est un peu votre vision de son cinéma ?
C'est difficile à dire, quoi. Moi je sais que je laisse ces films sans les analyser, je laisse les impressions, les associations d'idées se faire. J'intellectualise pas forcément ce que je vois. C'est quelqu'un qui a un univers très fort, qu'on comprend pas toujours au premier abord, qui peut aussi rebuter certains, les laisser à côté. En tous les cas, on ne peut pas rester indifférent. Et ce qui est sûr, on se rend compte en organisant la rétrospective, c'est que les surréalistes existent encore, et notamment à Paris, puisqu'un certain nombre seront là, notamment à la table ronde.
Qu'est-ce que justement cette touche surréaliste, enfin chez lui c'est plus qu'une touche d'ailleurs, peut nous apporter à l'heure actuelle dans notre monde ?
Je dirais d'arrêter de penser et d'intellectualiser tout et se laisser porter aussi, ouvrir un champ qu'on ne connaît pas, accepter d'aller dans cet univers où on sera surpris tout le temps, quoi.
C'est une invitation au rêve alors ?
Voilà, au rêve, à des univers inconnus que seul l'art peut apporter, quoi.
Juste pour terminer sur votre rétrospective en particulier, c'est une rétrospective exhaustive, on le disait, puisque c'est une intégrale,
voilà,
vous présentez toutes les œuvres et également des courts-métrages, ouais, pas uniquement les longs-métrages. Est-ce que vous pourriez mettre en avant une ou deux œuvres qui vous semblent particulièrement intéressantes, même si c'est toujours difficile de faire un choix,
oui,
je
oui.
suppose.
En plus, je dirais que c'est dans ces courts-métrages qu'il est le plus marquant et où son univers est le plus fort. Je trouve que les longs métrages sont plus abordables par le grand public et on peut commencer d'ailleurs par les longs métrages. Bon, il y a évidemment son dernier long métrage qu'on présente en avant-première, qui est vraiment une surprise, parce que je trouve le film très abordable, complètement psychanalytique, très drôle. Or, son univers n'est pas toujours drôle, il faut bien le dire. Mais dans les courts-métrages, il faut avoir vu les possibilités du dialogue. C'est un des grands films du cinéma tout court. C'est le film qui vous fait réfléchir sur le couple, les relations humaines. Je veux dire, des grands philosophes ont analysé ce film, il faut le savoir. Bon, les longs-métrages, moi j'aime beaucoup Les Conspirateurs du plaisir et Ote Sanek. Il y a Alice, il faut voir le Alice, évidemment, de Zwankmeyer, après avoir découvert celui de Tim Burton. Revenons au Alice de Zwankmeyer, qui est, je pense, celui qui pouvait le mieux adapter l'univers de Lewis Carroll.
En écrivant mes souvenirs d'enfance, je me soulageais au début des années 60 de l'époque dans laquelle je vivais. J'échappais au cauchemar, dit l'écrivain Antonin Bayaya, le nouveau lauréat du prix national de littérature. Le jury du ministère de la Culture lui a décerné cette distinction pour son roman dont le titre est une allusion à la célèbre valse de Johann Strauss. Le livre couronné du prix national s'appelle « La belle Drzewnice bleue ». Le livre évoque l'enfance de l'auteur dans la ville de Zlin en Moravie, jadis ville rayonnante du roi de la chaussure Tomasz Batia et de son frère Jan, qui en ont fait non seulement un important centre industriel, mais aussi une vitrine de la nouvelle architecture tchèque. Antonín Bajaja, né en 1942, a cependant vécu le déclin de la ville. Son enfance, juste après la guerre, aurait pu même être heureuse s'il n'y avait eu le coup d'État communiste en 1948 et si le rideau de fer n'avait pas obscurci l'horizon. Sa ville elle-même a perdu son caractère, son identité et même son nom, car elle a été rebaptisée Gottwaldorf et a porté donc pendant 4 décennies le nom du premier président communiste Clement Gottwald. La perception de ces événements par le petit Antonin était cependant adoucie quelque peu par son âge. L'écrivain se souvient.
Nous jouions aux billes, nous nous poursuivions dans la rue et autour de nous, les gens perdaient la liberté, l'espoir, les biens. Je ne place les biens qu'à la dernière position parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais grâce à nos parents, grâce aux adultes qui voulaient nous permettre de vivre notre enfance, nous ne nous rendions pas compte de tout ça, pas vraiment.
Fils d'un médecin poursuivi par le régime, Antonín Bajaja devient, après des études à l'école supérieure d'agriculture de Brno, zootechnicien dans une coopérative agricole, puis chef de laboratoire agricole de Zlin. Après la révolution de 1989, il se lance dans le journalisme et travaille d'abord à la radio tchèque, puis à la station Europe Libre. À partir de 1996, il dirige les séminaires d'écriture littéraire de l'université Palatsky d'Olomouc. Simultanément, il écrit en 1994 son roman Zvečení, devenir loup, qui obtient le prix Magnesia Litera. C'est le nom de la rivière traversant Zlin qui figure dans le titre de son dernier opus, La Belle Djenice Bleue, livre qui reflète, selon son auteur, les changements que l'âge a apportés à sa vision de l'enfance.
Dans ce livre, je ne regarde pas le monde seulement par les yeux de l'enfant que j'étais, je le regarde aussi par les yeux d'un homme vieillissant. Et c'est peut-être justement cette différence, ce frottement entre la vision enfantine et la vision adulte du monde qui crée une des dimensions, une des tensions de ce livre.
Aujourd'hui encore, la vie d'Antonín Bajaja reste intimement liée avec sa ville natale. Il ne cache pas être déçu par l'évolution de Zlín pendant ces deux dernières décennies.
Et puis il y a eu la révolution et Zlín a déposé le bilan. Et aujourd'hui, il n'y a rien, on n'y fabrique rien. L'immense usine qui a créé cette ville est morte. Je m'étonne que la ville de Zlín continue encore d'exister, qu'elle ait survécu par miracle à tout ça, qu'elle n'ait pas eu le sort du Dawson City dans le Klondike après la fin de la ruée vers l'or.
Heureusement, ces derniers temps, l'écrivain constate aussi une certaine amélioration et se prend à espérer que la ville revive grâce à son université, à ses institutions régionales. Il suit avec intérêt le travail de l'architecte Eva Jezichna qui a construit à Zlín une nouvelle maison de la culture, une construction futuriste qui, pour Antonín Bajaja, fait progresser finalement l'architecture de la ville au-delà de la période des frères Batia. Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Dans la suite de notre programme en français, aujourd'hui dans Panorama, Alexis Rosenzweig revient sur le procès de Witkoff et sur la condamnation en première instance à de lourdes peines des quatre auteurs de l'incendie criminel d'une maison habitée par une famille rome. Son invité est Pavel Hull, qui représentait lors de ce procès Natalka, la petite fille très grièvement brûlée dans cet incendie.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Pavel Hull, vous êtes le représentant de la petite Nathalie dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est la principale victime d'une attaque de néo-nazis dans une petite ville qui s'appelle Witkoff, une attaque au cocktail Molotov. Cette petite fille, Natalka, a été grièvement blessée à 80% et vous la représentiez lors du procès en première instance qui vient de s'achever, avec des peines de 22 ans pour trois des néo-nazis et de 20 ans pour le quatrième. Je voudrais d'abord vous demander comment est-ce que vous avez vécu ce procès, sûrement très médiatisé par rapport aux précédents sur lesquels vous avez travaillé.
C'est vrai que le procès était médiatisé, mais il faut dire que le procès durait plusieurs des mois. Et ça, ce qui était médiatisé, c'était le début. Quelques preuves qui était délibéré pendant le procès et après la déclaration du jugement. Il faut dire que la majorité du procès n'était pas si médiatisé comme quelques aspects de ce procès plus attractifs par le public.
De ce que j'ai pu en voir moi, c'est pour ça que je vous demandais votre impression aussi subjective dans la salle du procès. On a l'impression que ces jeunes gens n'ont pas tellement conscience de ce qu'ils ont fait. Et pour moi, ce qui était assez choquant, c'est qu'ils venaient dans la salle du procès avec notamment des habits et des vêtements de marques très renommées, réputées dans les milieux néo-nazis.
Oui, c'est vrai. C'était évident dans un cas des accusés. Et il faut dire que pendant tout procès, je n'ai marqué aucune réflexion de leur part. Il y en avait deux qui en ont déclaré, mais c'était seulement la déclaration sans...
De regret.
Oui, ils ont déclaré leur regret, mais c'était la déclaration très formelle, sans aucune émotion. Et, le reste de leur comportement était absolument intact et sans aucune émotion vers le, résultat de leur fait. Par contre, il faut dire que quand ils ont décrit leur arrestation, c'était beaucoup plus émotionnel que la description du fait qu'ils ont commis.
Sur les serveurs d'actualité en République tchèque, vous avez participé à quelques forums, les internautes ont pu vous poser quelques questions et en général, de ce que j'ai vu, la question qui revient souvent, c'est « Vous ne trouvez pas que les peines sont trop lourdes ?»
Non, pas du tout. Je ne pense pas que les peines sont trop lourdes si on le compare avec le fait ce qu'ils ont fait.
C'est ce qu'on vous pose le plus souvent.
Exactement. Il faut dire que le public dans la République tchèque n'est pas encore préparé à accepter que ce qu'il faut vraiment juger, c'était le motif du crime. Le public est capable de comparer les résultats du crime, mais il refuse de voir que ce crime était fait d'une motivation raciste. Et ça, d'après la loi et d'après les valeurs de la civilisation européenne, c'est quelque chose qu'il faut refuser et la peine doit le refléter.
Le refléter. Il n'y a pas que le public, il y a aussi le président de la République ici.
La réaction de M. Klaus, le président de la République tchèque, m'a vraiment étonné parce que il faut dire que...
Je vais juste rappeler aux auditeurs qu'il a dit, grosso modo, qu'il trouvait que les peines étaient trop lourdes.
Il faut dire qu'au moment que les accusés étaient arrêtés, ils se prononçaient qu'ils espèrent d'un procès qui va réagir à ce crime qui était vraiment horrible. Et encore, il faut souligner que dans l'année 1995, la loi ne connaissait pas encore la qualification de la crime raciste en ce qui concernait l'assassinat. Et c'était le gouvernement du Václav Klaus, qui était à l'époque le président du gouvernement, qui l'a proposé au Parlement cette
ce durcissement de la loi.
Ce durcissement de la loi. Et depuis ce moment, la loi qui a été construite par le gouvernement de M. Klaus, la loi dit que l'assassinat fait avec le motif raciste est plus sévèrement puni que l'assassinat d'un autre motif.
En tant que représentant de la petite Natalka très grièvement brûlée, vous avez également demandé des dommages-intérêts à hauteur de, il me semble, 9,5 millions de couronnes qui ont été accordés par le juge, ce qui est assez exceptionnel. Cela dit, reste un problème à savoir comment récupérer cette somme puisque les auteurs de l'acte ne sont pas solvables et que le droit tchèque est assez compliqué en la matière.
Oui, c'est vrai que c'était une situation un peu exceptionnelle que la Cour a confirmé notre demande au dommage-intérêt parce que dans les cas similaires, la Cour souvent dit aux victimes qu'elle doit s'adresser à la procédure civile. Actuellement, je vais encore attendre que cette décision passe par la Cour d'appel pour qu'on puisse être sûr que cet arrêt est définitif. Et il est vrai que l'exécution de ce résultat sera très compliquée, mais c'est la question du futur et j'espère que pendant 20 ans, ceux qui sont maintenant accusés, qui seront, j'espère, aussi condamnés, vont trouver une réflexion interne et ils vont participer à couvrir ces dommages intérêts aux victimes. Ça sera aussi un facteur qui sera important quand ils vont au futur demander leur libération préliminaire.
Anticipée,
oui.
On l'a dit, les quatre auteurs de l'acte ont fait appel de ce premier jugement. Quand est-ce que cela va être jugé à nouveau? Je crois que c'est à Olomouc.
Oui, ça sera à Olomouc. Je pense que La délibération commencera dans la période de 6 mois. C'est pas exact, mais c'est la question quand l'arrêt actuel sera réalisé dans la papier, dans la forme du papier. Après, il y aura un délai de 8 jours. Les accusés auront la possibilité de écrire en matière du papier leur appellation, et après ça sera envoyé à Olomouc, et je pense que pendant quelques mois ça sera redélibéré devant la cour d'appellation, la cour d'appel, excusez-moi.
Est-ce que vous pensez que ces peines vont être modifiées en deuxième instance?
Je pense pas qu'ils vont être modifiés d'une manière radicale. Il est possible que les peines seront peut-être un peu plus distinguées, parce que actuellement, la Cour ne distingue pas entre les accusés. Peut-être il y aura une petite distinction un an et demi, mais c'est la question ouverte.
Merci, j'espère qu'on pourra en reparler à ce moment-là.
Merci beaucoup.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr. À bientôt. You're listening to Radio.